Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 10 février 2025 et cette chronique du groupe Fred Zeller va être consacrée à des sujets d'une extrême gravité. Je veux parler de la question de l'accueil, ou plus exactement, parce que c'est la réalité, du non-accueil des personnes exilées à Paris et en France, de la question de la lutte contre le racisme et le fascisme, et de la question diversité et égalité. Est-ce bien la même chose? Ou pour reprendre le titre d'un ouvrage de Walter Ben Michaels, La diversité contre l'égalité. Alors je vais commencer cette chronique donc en lisant une lettre ouverte interorganisation dont la Fédération nationale de la libre pensée est signataire et dont le titre est, lettre au président de la République, 10 ans de non-accueil des personnes exilées à Paris et en France. Monsieur le Président, il est urgent de résoudre 10 ans d'une situation intenable, celle du non-accueil et de la violence institutionnelle envers les personnes exilées. En 2015, le nombre de personnes venues demander l'asile en Europe augmente. Cette situation, rendue visible à Paris par l'installation de centaines puis de milliers de personnes dans des campements de rue, est qualifiée de crise migratoire, une appellation que nous rejetons, constatant quotidiennement sur le terrain que c'est le système d'accueil qui est en crise. Pour les familles, enfants, femmes et hommes qui survivent dans ces lieux de vie informels, les conditions de vie sont délétères pour leur santé physique et psychique, et parfois fatales. Bien que très visible à Paris, cette situation a des répercussions nationales. Le cycle infernal de démantèlement de ces campements et d'opérations de « mise à l'abri », entre guillemets, beaucoup de guillemets, s'accompagne de la délocalisation en bus de ces personnes vers d'autres régions, la plupart du temps sans concertation avec elles. Elles subissent alors une perte de repères, de ressources et d'opportunités dans un contexte déjà précaire d'hypermobilité. Par ailleurs, Paris est souvent un lieu d'étape, avant le littoral des Hauts-de-France où les atteintes aux droits fondamentaux sont innombrables et mortifères. Un état de fait intolérable, auquel vous disiez précisément souhaiter mettre un terme lorsque vous déclariez le 27 juillet 2017 « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, nous étions en 2017, je ne veux plus avoir de femmes et des hommes dans les bois perdus. » Cette situation de non-accueil, c'est aussi 10 ans de victoire idéologique de l'extrême droite et penser structurellement pour éviter un supposé « appel d'air », entre guillemets. Cette théorie infondée, largement infirmée depuis des années par les chercheurs qui travaillent sur ces questions, propose une lecture erronée des dynamiques de l'exil consistant à faire croire que l'on fuirait les persécutions et la pauvreté, non pas en dernière mesure pour se sauver, mais plutôt pour venir profiter à Paris d'une place d'hébergement ou de minima sociaux. Les équipes gouvernementales successives ont ainsi appliqué une politique de non-accueil systématique et fait de la vie des primo-arrivants un enfer. Le passage par la case sans-abrisme est obligatoire pour dissuader de venir ou de rester toutes celles et ceux qui viennent demander une protection dans notre pays. Ces 10 dernières années ont été marquées par la maltraitance des personnes exilées à Paris et en Île-de-France. Diverses modalités de gestion de l'enregistrement des personnes ont été expérimentées. Des files d'attente interminables devant des dispositifs sous-dimensionnés, notamment durant l'épisode dit de la « bulle humanitaire » à la porte de la chapelle. La dématérialisation du guichet de demande d'asile devenu un numéro de téléphone payant en 2017 et qui participe à l'invisibilisation des personnes exilées des espaces publics sans pour autant faciliter leur accès aux dispositifs et à leurs droits. L'encampement des personnes exilées se traduit par l'existence de nombreux lieux de vie informels, et notamment de campements regroupant parfois jusqu'à 4000 personnes à Paris et en Petite Couronne. Les nombreuses tentatives des autorités de mettre fin à ce phénomène par une politique de, entre guillemets, zéro point de fixation, se sont matérialisées par des scènes de violence répétées, leur et suite au démantèlement de ces lieux de vie. À l'instar du nettoyage social organisé à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, la réponse politique a toujours été plus policière qu'humanitaire, dévoyant l'usage initial prévu du service public policier et faisant des expulsions et du harcèlement par les forces de l'ordre l'une des conditions structurelles du quotidien des personnes exilées à Paris. Mais cette décennie a aussi été marquée par plusieurs épisodes de prise en charge d'ampleur pendant la pandémie de la Covid-19 en mars 2020, lors de l'arrivée des 3000 Afghans qui fuyaient la prise de Kaboul par les talibans en août 2021, ou à l'occasion de l'accueil inconditionnel des Ukrainiens dès le mois de mars 2022. Ce choix structurel du non-accueil et donc du refoulement du sans-abrisme dans notre pays et de son traitement partiel et très court-termiste dans une urgence perpétuelle, légitimée par l'emploi du terme de crise, semble être la méthode préfectorale envisagée pour encore de nombreuses années. En effet, depuis 2015, les préfectures d'Île-de-France ont organisé à minima 405 opérations de mise à l'abri de ces campements. Pourtant, dans une France qui se disait prête à accueillir le monde, pour ces Jeux olympiques et paralympiques, et qui a vu lors de la cérémonie d'ouverture Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, recevoir les lauriers olympiques, les campements et la rue restent le seul recours pour les futurs arrivants. Il y a urgence à mettre un terme à 10 ans du non-respect des droits humains et de nos engagements en droit international. Pour cela, de nombreuses solutions existent. Ouvrir des dispositifs de premier accueil inconditionnel à Paris et dans d'autres villes d'arrivée, calqués sur ceux prévus pour les Ukrainiens, réquisitionner des bâtiments vides pour agrandir le parc de logements et d'hébergements au niveau national, et enfin, mettre des moyens financiers et humains à la hauteur des besoins afin de faciliter l'insertion dans la société des personnes exilées dès leur arrivée, en rendant effectif leur accès au marché du travail, à des cours de français, à un logement digne et à un réel accompagnement social et sanitaire. Voilà, c'est donc la lettre adressée au président de la République par donc un ensemble d'organisations. C'est une lettre ouverte interorganisation dont la Fédération nationale de la libre pensée est signataire. Voilà. Alors, je poursuis sur ces sujets parce que, bien évidemment, les sujets qui vont avec ce que je viens d'expliquer, c'est le racisme, la montée du fascisme. Et il y a pour le 22 mars prochain une initiative pour un appel et une démarche collective, donc pour une organisation donc d'une initiative. Cette année, la Journée internationale contre le racisme du 21 mars revêt un enjeu particulier aussi bien internationalement qu'en France. Trump est redevenu président des États-Unis sur une orientation d'extrême droite et avec l'appui de courants suprématistes blancs et fascistes. En France, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir et le gouvernement lui ouvre la voie avec des politiques de plus en plus ouvertement racistes et autoritaires. Un appel international a été lancé, repris dans de nombreux pays, pour faire de la journée du 22 mars et autour du 21 mars une mobilisation mondiale contre le racisme et le fascisme. En France, de nombreux réseaux, syndicats et associations ont construit ensemble la mobilisation autour de la Journée internationale des migrants du 18 décembre pour en faire le début d'une campagne de lutte autour des immigrés et contre le racisme et en fixant le 22 mars comme une expression massive de rue. Les 14 et 18 décembre, la mobilisation s'est organisée autour de deux appels, l'un lancé par la Marche des Solidarités et l'autre intitulé « Venu d'ailleurs ou né ici ». Le 18 décembre, ces deux appels ont décidé de continuer à mobiliser ensemble. Suite aux décisions de son assemblée du 26 janvier, la Marche des Solidarités a proposé à ce cadre d'utiliser l'appel commun rendu public lors du meeting unitaire du 18 décembre comme base commune autour de laquelle construire la mobilisation pour le 22 mars. Ce cadre, pensant que nous sommes complémentaires, a décidé de rédiger son propre appel pour le 22 mars en souhaitant l'orienter vers ceux et celles qui ne sont aujourd'hui pas convaincus de cette lutte, tout en organisant la mobilisation ensemble. Il y aura donc deux textes d'appel. La Marche des Solidarités va lancer un appel à signature orienté vers toutes celles et tous ceux qui pensent qu'il faut combattre le racisme et le fascisme, nous rendre visibles, nous organiser plus largement. Après discussion en réunion de la Marche des Solidarités sur la région parisienne et dans la volonté de renforcer l'unité indispensable, nous avons proposé à l'autre cadre qu'en chapeau des deux textes d'appel, nous utilisions le texte très court de l'appel international qui est consultable sur Internet. Nous proposons d'utiliser le texte du 18 décembre comme base de l'appel lancé par la Marche des Solidarités. Nous appelons donc tous les réseaux, les codes de mobilisation, les collectifs, les syndicats, les associations dans chaque ville, chaque région, à se mettre en contact pour organiser en commun dès maintenant la mobilisation pour le 22 mars et à discuter d'initiatives dans le cadre d'une vague de lutte, actions, occupations, grèves, réunions publiques, affichages locaux contre le racisme et le fascisme. Nous appelons donc tous les cadres qui le souhaitent à faire remonter des propositions d'amendements au texte que nous proposons, notamment sur les revendications, avec donc l'adresse mail donnée pour envoyer ces propositions. Et donc, vous trouverez ci-dessous le texte proposé, que je vais vous lire, « Chapeau international, plus appel unitaire du 18 décembre, expurgé des références à la mobilisation du 18 », j'ajouterai tout à fait logiquement. Et une réunion Zoom se tiendra jeudi prochain, qui permettra de finaliser le texte et d'échanger sur les mobilisations en cours. Donc voici le texte d'appel proposé par la Marche des Solidarités. Samedi 22 mars, journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Nous appelons les progressistes de la planète, individus comme mouvement, toutes celles et tous ceux qui s'opposent au racisme et au fascisme à se mobiliser pour construire une riposte unie à une menace mortelle pour nous toutes et tous. Nous devons affronter et vaincre ceux qui promeuvent la haine et la division et le faire avec de larges mouvements fondés sur la diversité, la solidarité et l'unité. Nous appelons à une journée mondiale d'action contre le racisme et le fascisme dans les villes du monde entier, au nord comme au sud, du samedi 22 mars 2025 et autour de cette date, à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme. Il y a des moments dans l'histoire où il faut se lever et faire entendre sa voix, et nous sommes dans un tel moment. La situation est grave et urgente, mais nous sommes la majorité, nous pouvons gagner nos passarades. L'heure de la riposte. Nous ne voulons pas vivre dans une société qui autorise la violence, le racisme, la discrimination, qui nous prépare ou nous oppose en fonction de l'endroit où l'on est né. Nous vivons ensemble chaque jour et nous voulons continuer à le faire librement, dans l'égalité, la justice et la solidarité. Nous avons la volonté de mener commune, de mener le combat essentiel pour l'égalité des droits pour toutes et tous, pour la justice sociale contre le fascisme et contre le racisme sous toutes ses formes. Notre détermination est à la hauteur de nos ambitions, forts et fortes de notre unité. Obligeons le pouvoir à renoncer à ces politiques violentes d'exclusion qui jettent dans l'extrême précarité sociale et administrative un grand nombre de personnes étrangères, quel que soit leur statut, travailleuses et travailleurs avec ou sans titre de séjour, familles, femmes, étudiants, mineurs isolés, exilés en demande d'asile ou déboutés. Nous appelons à soutenir les luttes en cours, celles des jeunes à Paris et sur tout le territoire, celles des femmes en lutte pour leur hébergement, celles des travailleurs et travailleuses en lutte pour leur régularisation et le renouvellement de leur titre de séjour. Nous appelons à construire les conditions d'une mobilisation unitaire d'ampleur combinant dans toute leur diversité nos différentes ressources et répertoires d'action. C'est pourquoi nous appelons les immigrés avec et sans papiers à rejoindre les collectifs de sans-papiers et les organisations syndicales sur leur lieu de travail. Nous appelons toutes et tous à rejoindre les réseaux de solidarité, les collectifs, les associations sur votre ville, votre quartier, à rejoindre les syndicats sur votre lieu de travail. Nous appelons à faire converger ce mouvement dans la rue le samedi 22 mars, dans le cadre de la Journée internationale contre le racisme. Toutes et tous ensemble, agissons pour un autre projet de société, humaniste, solidaire et égalitaire, contre le racisme, l'exclusion et l'exploitation. Et donc, c'est signé des collectifs de la Marche des Solidarités. Voilà, c'est donc une initiative extrêmement importante sur laquelle, bien évidemment, nous reviendrons dans de prochaines chroniques. Et il se trouve que la revue de la Libre Pensée La Raison, dont le dernier numéro vient de sortir, publie un texte au sujet d'un livre, je crois l'avoir déjà évoqué, un livre de Walter Ben Michaels, « La diversité contre l'égalité ». Et je vous en lis donc la note de présentation qu'en a fait Christian Echen. Donc il indique, Christian Chêne, cet ouvrage a été édité en langue française en 2009. Il nous a semblé utile, plutôt que d'en faire une analyse ou un commentaire, de publier tel quel des extraits qui se suffisent à eux-mêmes, nous semble-t-il, et pour vous donner l'envie de le lire. Commençons par la fin. La présentation en quatrième de couverture. À la télévision comme dans les entreprises, au Parti socialiste comme à l'Élysée, à Sciences Po comme à l'armée, résonne un nouveau mot d'ordre « Vive la diversité ». Avec l'élection de Barack Obama, le bruissement s'est changé en clameur. Désormais, chacun devrait se mobiliser pour que les femmes et les « minorités visibles » entre guillemets occupent la place qu'il leur revient au sein des élites. Mais une société dont les classes dirigeantes reflètent la diversité a-t-elle vraiment progressé sur le chemin de la justice sociale? À cette question jamais posée, Walter Ben-Michaels répond par la négative, la promotion incessante de la diversité et la célébration des, entre guillemets, « identités culturelles » permettent au mieux, selon lui, de diversifier la couleur de peau et le sexe des maîtres sans remettre en cause la domination qui traverse toutes les autres, celle des riches sur les pauvres. À l'aide d'exemples tirés de la littérature, de l'histoire et de l'actualité, ce livre montre comment la question sociale se trouve désamorcée lorsqu'elle est reformulée en termes ethnico-culturels. Plus fondamentalement, il s'interroge, donc il s'agit de Walter Ben-Michaels dans son livre « La diversité contre l'égalité ». Donc, plus fondamentalement, il s'interroge sur l'objectif d'une politique de gauche. S'agit-il de répartir les inégalités sans discrimination d'origine et de sexe ou de les supprimer ? Walter Ben-Michaels est professeur de littérature à l'Université de l'Illinois à Chicago. En effet, les inégalités entre blancs et non-blancs, entre hommes et femmes, hétéros et homos, découlent avant tout de discriminations et de préjugés. Et puisqu'elles procèdent du racisme et du sexisme, il suffirait pour les éliminer d'éradiquer le racisme et le sexisme. Mais les inégalités entre maîtres et serviteurs, et entre riches et pauvres, patrons et ouvriers, ne trouvent leur origine ni dans le racisme, ni dans le sexisme. Elles résultent du capitalisme et du libéralisme. En matière d'inégalités économiques, le racisme et le sexisme fonctionnent comme des systèmes de tri. Ils ne génèrent pas l'inégalité elle-même, mais en répartissent les effets. Voilà pourquoi même la victoire la plus complète remportée sur le racisme et le sexisme ne comblerait pas le fossé entre les riches et les pauvres, elle modifierait simplement leur répartition par sexe, inclination sexuelle et couleur de peau. Une France où un plus grand nombre de Noirs seraient riches ne serait pas économiquement plus égalitaire, ce serait juste une France où le fossé entre les Noirs pauvres et les Noirs riches serait plus large. Mais, depuis un quart de siècle, la situation a évolué au point de renverser l'ordre des priorités. À partir du tournant libéral de la gauche de gouvernement en 1983, la lutte contre les discriminations, SOS racisme, a remplacé la rupture avec le capitalisme en tête de l'agenda politique. Dès lors qu'il est souvent substitué au combat pour l'égalité, au lieu de s'y ajouter, l'engagement en faveur de la diversité a fragilisé les digues politiques qui contenaient la poussée libérale. La volonté d'en finir avec le racisme et le sexisme s'est révélée tout à fait compatible avec le libéralisme économique, alors que la volonté de réduire, a fortiori de combler, le fossé entre les riches et les pauvres ne l'est pas. En même temps, qu'elle affichait son engagement en faveur de la diversité, en combattant les préjugés, mais aussi en célébrant les différences. La classe dirigeante française accentuait son penchant libéral. Ce dernier mouvement, caractéristique de la droite, Nicolas Sarkozy incarne-t-il autre chose, se retrouve tout aussi fréquemment chez des gens « de gauche », entre guillemets, la gauche « rénovée », toujours entre guillemets, qu'appelle de ses voeux un journaliste comme Laurent Geoffrin, signifie-t-elle autre chose? En quoi réside sa rénovation, sinon dans son allégeance au marché? En fait, à mesure que la question de l'identité nationale affermit son emprise sur la vie intellectuelle française, qu'on la promeuve, le président de la République, ou qu'on la combatte, les indigènes, on s'aperçoit que sa fonction principale consiste à faciliter, en le masquant, l'accroissement des inégalités qui caractérisent le néolibéralisme à travers le monde. Une justice sociale qui, en d'autres termes, accepte les injustices générées par le capitalisme et qui optimise même le système économique en distribuant les inégalités sans distinction d'origine ou de genre. La diversité n'est pas un moyen d'instaurer l'égalité, C'est une méthode de gestion de l'inégalité. Aussi longtemps que Laurent Geoffrin pourra assimiler la droite néolibérale à la vieille droite antilibérale et suggérer que Sarkozy, c'est Le Pen déguisé, il pourra prétendre que la gauche néolibérale est vraiment de gauche et qu'il en fait partie. Mais hélas, la gauche néolibérale n'est pas de gauche et Laurent Geoffrin non plus. En vérité, il est lui-même beaucoup plus proche de Sarkozy que Sarkozy de Le Pen. Tous deux sont partisans du capitalisme tempéré, de l'économie de marché régulée et du libre-échange raisonné. Certes, Sarkozy a un léger avantage, il l'assume. Le Parti socialiste, en revanche, ainsi que Geoffrin lui-même, le note avec une certaine mélancolie, cherche toujours à donner au mot « socialisme » une définition qui soit à la fois contemporaine, pourquoi pas quelque chose comme une vision du monde valorisant l'économie de marché, l'ouverture et la croissance soutenable, et bien distincte des politiques de l'UMP. Oh pardon, j'oubliais, autant pour moi. L'objectif ici consiste à se proclamer de gauche sans jamais adopter dans les faits aucune position politique de gauche, sachant, ce qui facilite encore la chose, que la critique radicale du capitalisme ne passe pas pour très contemporaine. Co-fondateur du Black Panther Party aux États-Unis, le militant des droits civiques Bobby Seale mettait en garde ses camarades à la fin des années 1960. Citation. Ceux qui espèrent obscurcir notre combat en insistant sur la différence ethnique aident au maintien de l'exploitation des masses, c'est-à-dire des blancs pauvres, des noirs pauvres, des bruns, hispaniques, indiens, chinois et japonais pauvres, bref, de l'ensemble des travailleurs. Pour Seale, les choses étaient claires. Nous ne combattrons pas l'exploitation capitalisme par un capitalisme noir. Nous combattrons le capitalisme par le socialisme. L'éloignement de cette dernière perspective devait-il avoir une pour corollaire le ralliement à un capitalisme noir? Et bien que Finkielkraut se montre particulièrement grincheux à l'égard de ceux qui réclament une repentance française pour les méfaits et les crimes commis dans le passé, ces élèves de l'école polytechnique, qui devenus chefs d'entreprise n'auront aucune envie de voir toute cette main-d'œuvre bon marché exercer son droit de partir, ne tarderont pas à apprendre la leçon que leurs homologues américains ont assimilée depuis longtemps. La repentance est bonne pour les affaires. Exprimer ses regrets pour l'esclavage, le colonialisme, la Shoah, manifester son respect pour les gens, pour leur culture, leur histoire, leur sexualité, leur goût vestimentaire et ainsi de suite, tout cela revient bien moins cher que de leur verser un salaire décent. De fait, s'excuser pour des actes qu'on n'a pas commis, soi-même, auprès de gens à qui on ne les a pas fait subir, en fait des gens qui ne les ont pas subis eux-mêmes, relève d'une industrie en plein essor. Mais le tribalisme, pas plus que le nationalisme, ne constitue un obstacle à la mondialisation. En réalité, l'un et l'autre sont parfaitement compatibles et on peut même les considérer comme deux de ses plus grandes réussites. Il s'invente aujourd'hui quotidiennement de nouvelles formes d'identité ancienne dont la fonction essentielle est de permettre aux gens de se faire une image d'eux-mêmes qui est le moins possible à voir avec leur situation matérielle ou leurs opinions politiques. Voilà. Alors, je vais en arrêter là à la lecture de cette présentation du livre que vous pourrez retrouver en totalité. Alors, pour ceux qui reçoivent la revue La Raison, eh bien, c'est dans le numéro qui vient d'arriver chez les abonnés. Et puis, vous le retrouverez, bien évidemment, à partir des comptes rendus de cette chronique qui apparaîtront sur le site du groupe Fred Zeller. Et je crois que c'est également publié sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Je vous propose maintenant... Donc le choix musical de cette chronique, où on poursuit notre balade dans le blues, mais en faisant cette fois une incursion dans la manière dont localement, en Dordogne, existe et est présent le blues. Et pour ça, il y a toute série de festivals qui existent, et je cite celui de Douche à Blues, dont nous allons écouter l'un des habitués, Nikos. You talk too much. Eh bien, écoutez, je reviendrai prochainement également sur ce festival de Doucha Blues, parce qu'il y a des initiatives qui vont être prises. Et je vous souhaite donc une excellente semaine et nous nous retrouverons dans une prochaine chronique lundi prochain, qui sera enregistrée pour des raisons de disponibilité du studio. Voilà, bonne semaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine dès lundi 11h30.
Qui la couvre elle tient ton glaive bras.